This is the Humans Link Audio Experience. The greatest.
Yes, bonjour à toutes et à tous, ici Valentin French de humanslink.com. J'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle pause café avec Humanslink. L'objectif de ce live, mais aussi de Humanslink, est de créer les organisations dont l'humanité a besoin. On est placé en Guadeloupe et aussi à Montréal, donc aujourd'hui on parlera des deux. Dites-nous en commentaire si vous nous suivez sur Facebook ou sur YouTube, d'où est-ce que vous nous suivez aujourd'hui? Si vous êtes en France, en Guadeloupe, dans la Caraïbe, à Montréal ou ailleurs. Et puis aussi, post-café, moi j'ai le café, je suis prêt. Peut-être que vous êtes plus thé ou tisane, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça va nous faire sourire. Et donc mon invité d'aujourd'hui, vous le connaissez certainement, il est expert en recrutement, spécialiste en développement de carrière au service des stages et du développement professionnel à l'Université de Sherbrooke, c'est Sébastien Reitz. Bonjour Sébastien.
Bonjour Valentin.
Comment vas-tu?
Ça va très très bien.
Écoute, je suis ravi de te revoir pour une deuxième pause café avec toi. On avait fait ta connaissance la première fois et c'était plaisant. On a eu plein de bons commentaires et il fallait absolument qu'on se revoie pour approfondir les sujets dont tu as l'expertise. Et c'est ce qu'on va tâcher de faire aujourd'hui. Est-ce que tu es équipé de ton café pour cette pause?
Ah, écoute, je suis toujours très corporel, donc comme tu peux le voir, j'ai toujours ma petite tasse de café
Université de Sherbrooke.
C'est sûr.
Ah oui. Pardon?
Bienvenue chez moi.
Est-ce que, d'ailleurs, ouais, parce qu'en France, il y a eu le déconfinement lundi, le 11 mai 2020, et puis bon, au Québec, toi, tu travailles encore en télétravail?
Oui, en fait, Montréal est confiné jusqu'au 25 mai. Mais je devrais avoir la chance, si tout va bien, de retourner au bureau, au campus de Longueuil, le 1er juin.
Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est déjà décidé.
Si tout se passe bien.
Oui, c'est ça. On verra. On attend encore une dizaine de jours et puis on verra. Super. Bon, et tous ceux qui nous suivent maintenant, aujourd'hui, on va parler de recrutement, comment trouver du travail dans le marché du travail qui est en pleine mutation, mais aussi comment recruter les talents pour développer nos organisations. Et Sébastien va pouvoir nous donner des clés pratiques sur aussi comment utiliser les technologies. Il va nous apporter un regard neuf sur la réalité en fait, que les technologies amènent dans le marché du travail, que ce soit pour trouver un emploi ou pour recruter les talents, donc du côté employé et du côté employeur. D'ailleurs, Sébastien, c'est quoi les RH? Est-ce que tu as une définition qui t'appartient ou que tu ouais, chéris plus qu'une autre en fait de cette discipline qui sont les ressources humaines?
Bah écoute, pour moi, alors je vais d'abord définir ce que ça signifie pour moi, notamment quand j'étais aux Antilles. Pour moi, les RH étaient limités à un champ, c'est ce que j'appelais le net, N-E-T, pour la naissance, l'exécution et le terme du contrat de travail. C'est-à-dire que pour moi, les ressources humaines étaient au début, à la création du contrat, à l'exécution du contrat et dans le terme du contrat, lorsqu'il se termine. Dans tous ces champs-là, tu as la formation, tu as la santé sécurité au travail, ou le SST, tu as la comptabilité, souvent aux Antilles, la comptabilité souvent, et ressources humaines, c'est souvent très 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 proche du fait de la taille des organisations, tu as la formation. En d'autres termes, les ressources humaines, si je devais résumer ça en un mot, c'est ce qui permet à l'organisation de se structurer autour de l'homme pour l'homme.
Ce qui permet de se structurer autour de l'homme pour l'homme. Ok, super.
Si on constate que l'entreprise n'a pas qu'à vocation à générer de la valeur en termes d'argent, mais également une valeur ajoutée en termes d'humanité, si on reste dans le fit de Human Link.
Bien sûr. Très important. Nous, on est convaincus de ça. Et d'ailleurs, tu parles de la Guadeloupe parce qu'effectivement, tu as vécu longtemps en Guadeloupe. Ce territoire qui était si cher. Ouais, 17 ans. Et maintenant, tu es au Québec, on l'a compris, avec l'université de Sherbrooke. Du coup, tu as un regard, tu as une position qui est privilégiée dans le sens où tu as un regard, une connaissance, une expérience aussi de ces deux marchés du travail qui sont tantôt différents, mais tantôt similaires aussi sur certains points. En quoi, c'est un peu ma question en fait, c'est en quoi le Québec et la Guadeloupe dans l'expérience qu'on en a du marché, sur le marché de travail diffèrent?
Je dirais d'abord en quoi est-ce qu'ils se ressemblent, dans la complexité dans l'absolu. Et en quoi est-ce qu'ils diffèrent, c'est qu'il y a encore, bon ça j'en avais parlé la semaine dernière, il y a encore quelques mois, on était en plein emploi au Québec. Là aujourd'hui, on a viré un petit peu de l'autre bord pour un petit moment.
C'est vrai.
J'ai envie de dire que donc il y a déjà cet aspect-là. Puis là aussi, là où il y a une autre différence, en fonction des secteurs d'activité, par contre, un petit peu d'ailleurs, comme sans doute en Guadeloupe, mais la pression que mettent les partenaires sociaux est différente dans la forme et dans le fond. C'est toujours utile d'avoir des gens qui vous apportent la contradiction. C'est ce qui permet de faire avancer les choses. C'est grâce aux syndicats qu'il y a eu de grandes avancées sociales. Je te dirais que la relation entre les organisations syndicales et le patronat ici est peut-être un peu plus apaisée, ce qui est sans doute fait d'ailleurs au contexte de plein emploi. Ça aide pas mal.
Ok, intéressant comme idée.
Il y a une flexibilité qui est plus importante au Québec également. Le salarié est moins protégé au Canada.
Oui.
Donc, c'est sûr que il n'y a jamais, tu sais, c'est toujours difficile de dire que ce soit à tel endroit ou à tel endroit, c'est mieux, c'est moins bien. Il y a des avantages et des inconvénients. J'ai envie de te dire que les salariés en Guadeloupe, enfin aux Antilles en général, bénéficient d'une protection qui est importante parce que les syndicats sont peut-être un peu plus actifs. D'un autre côté, ça met une pression sur les entreprises qui est plus importante. Donc, on a un peu moins de facilité à travailler, je dirais, en concertation. Donc, c'est moins évident. Et il y a une culture du consensus qui est beaucoup plus importante au Québec qu'elle n'est importante aux Antilles. Mais je pense qu'il y a une grande histoire là-dessus.
Oui, certainement. Tu parles de culture et c'est vrai. Historiquement, il y a certaines choses qui peuvent s'expliquer aujourd'hui dans ce qu'on observe. Pour les gens du Québec qui nous écoutent et pour les Guadeloupéens ou les Caribéens qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des exemples pour illustrer cette différence, cette notion de climat, enfin de relation entre les parties sociales et le patronat au Québec et
j'ai assisté à deux grèves assez majeures, une en 2009 aux Antilles sur laquelle je vais parvenir et une en 2012 je crois au Québec. J'y étais pas encore mais j'étais venu pour l'occasion et la différence flagrante que j'avais observée c'était que les salariés mettaient en avant le côté reprise du travail et qui disaient plus la grève dure, plus ça sera difficile de reprendre le travail. Ça m'avait pas
mal... Québec.
Au Québec. Ouais. Donc l'accent c'était mais il faut que ça s'arrête parce que quand on va revenir au travail, ça va être une mauvaise ambiance, ça sera pas positif. Donc l'axe de continuité était beaucoup plus présent. Il y avait beaucoup plus une notion de continuité qu'une notion de rupture que j'ai pu parfois observer en Guadeloupe. Mais encore une fois, ça ne se juge pas parce que simplement les réalités sont différentes. Les marchés ne sont pas les mêmes. Moi, c'était j'ai assisté à une grève dans une institution, ce qui est encore une fois encore différent. Donc, il faut toujours se mettre un petit peu en recul par rapport à ça.
Oui, j'entends. Mais je te remercie pour cet éclairage parce que, en tant que Québécois, on a pas, toi et moi, on partage, on a tous les deux vécu en Guadeloupe et ici. Puis, on a aussi les deux grèves auxquelles tu fais référence, je les ai vécues à travers mes lunettes. Les lunettes que j'ai, mais effectivement, c'est ceux qui nous écoutent n'ont pas nécessairement cette connaissance du Québec comme nous, toi et moi, on peut l'avoir. Et au Québec, on n'a pas ceux qui nous écoutent n'ont pas nécessairement la connaissance de la Caraïbe, de la Guadeloupe. Donc c'est important de pouvoir éclairer à ce niveau-là. D'ailleurs, je profite en commentaire pour saluer. Il y a Nikita qui est de Guadeloupe et qui nous suit sur YouTube. Bonjour Nikita. Il y a Elisabeth, il y a Lily aussi, il y a Eliane. Il y a principalement des femmes là tout de suite qui ont écrit en commentaire en tout cas. Et je profite pour annoncer en fait qu'on va faire des études de cas avec Sébastien en direct de certains profils LinkedIn pour regarder quels sont les points forts et les points faibles et donner des conseils concrets aux entreprises sur comment analyser un profil d'un potentiel talent et pour quelqu'un qui cherche un emploi, des conseils concrets sur comment revamper son profil pour s'assurer d'être à jour quelque part. Et d'ailleurs, parler de LinkedIn me fait la transition parfaite pour parler des technologies dans les ressources humaines. On en parle beaucoup, mais j'ai le sentiment que ça reste assez superficiel et qu'au final, la réelle connaissance qu'on en a est particulièrement limitée finalement. Ce n'est pas juste LinkedIn ou c'est pas juste on envoie une vidéo, les notes CV, quoi.
C'est pas que ça. Les technologies ont considérablement évolué. Suite à mon dernier live avec toi, ma tante me disait qu'elle faisait, elle, des formations à distance depuis 98. Ce à quoi je lui répondais, ouais, mais tu sais, Internet en 98 et Internet en 2018, c'est deux choses complètement différentes. Oui. Aujourd'hui, tu trouves de la technologie partout. Je vais te citer il y a un petit village de Corrèze qui m'est cher qui s'appelle Nonar. Nonar, okay. 2000 à 3000 habitants maximum, là, en comptant les vaches et les cochons. mais c'est une zone, c'est un endroit où il y a la fibre optique. Donc, ce qui veut dire que même dans des endroits qui sont reculés, où il fait bon vivre, où le cadre de vie est très agréable, où c'est une zone hyper touristique, elle pourrait accueillir des centres de très haute technologie. Tu aurais besoin de grosses quantités de données. Il y a même, on pourrait, c'est déjà un endroit où on pourrait trouver un data center, par exemple, aujourd'hui, alors que c'est en plein centre de la Corrèze. Et c'est certain aussi que aujourd'hui, mes petits-neveux, j'ai deux petits-neveux à Paris, Mathis et Lucas, c'est à peu près certain que les ressources humaines qui vont vivre aujourd'hui et les ressources humaines qu'il y aura dans 10 ans, quand ils vont intégrer le marché du travail, seront également complètement différentes. En d'autres termes, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, la technologie, non seulement elle évolue à vitesse grand V, mais elle est présente sur tous les territoires et elle s'est intégrée au fur et à mesure dans nos pratiques. Et rien qu'en ressources humaines, par exemple, c'est certain que le recrutement a été très impacté par les technologies. Les relations sociales, ça encore, ça reste à déterminer. Les relations sociales, comment elles vont être impactées, ça, je ne peux pas le dire. Mais la santé-sécurité sera impactée par les logiciels de prévision. La formation va être complètement révolutionnée puisque les formations à distance vont se développer de manière croissante. Et même ce qu'on est en train de faire là va se développer de plus en plus. Et je pense même que le métier de directeur des ressources humaines ou responsable des ressources humaines va prendre un cours complètement différent dans peut-être à 5 à 10 prochaines années. Mais ça, c'est une autre histoire, on pourra s'en parler si tu veux. Mais oui. C'est à peu près certain qu'aujourd'hui, le spécialiste en ressources humaines est tourné vers l'extérieur de l'entreprise. Ma théorie très personnelle, ça sera que dans quelques années, ça sera quelqu'un qui sera un spécialiste de l'intérieur de l'organisation. Ça, je pourrais te donner cette analyse.
Mais tu vois, en parlant de ça, allons dans ce sens pendant un petit moment, parce que effectivement, les ressources humaines, c'est une entreprise, il y a un projet, et il y a des gens qui se rassemblent pour mener à bien ce projet-là. Et malheureusement, souvent, les ressources humaines sont considérées comme un département de support, souvent support administratif, et rarement un département stratégique. Donc, la fonction stratégique des ressources humaines est souvent un peu étouffée, quoi. Écoute, ou ignorée.
C'est une erreur, à mon avis, majeure, justement. Et je ne dis pas ça parce que c'est un domaine qui m'intéresse plus qu'autre chose, mais il faut bien comprendre que quand tu fais le recrutement d'une personne, on l'a vu un petit peu la dernière fois, le mauvais recrutement peut t'amener à complètement mettre en l'air une équipe. Et ça, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, par exemple, c'est sûr qu'on va dire, oui, mais on ne peut pas faire des tests pour tout. C'est vrai. Mais par exemple, l'apport des technologies aujourd'hui te permettra de connaître le profil que tu vas engager, peut-être même anticiper s'il va fitter avec les membres de ton organisation, avec l'analyse des métadonnées. Pourquoi ? Parce que je te prends un exemple simple. On va mettre de la prudence dans ce que je dis, mais il me semble que au bout de 10 likes sur Facebook, Facebook en sait plus sur toi que tes amis. 20 likes que tu fais, Facebook en sait plus sur toi que ta famille. 30 likes que ta conjointe. Et je crois qu'à partir de 40 likes, Facebook est capable d'anticiper sur ce qui va te plaire.
Donc, faire la prospective et de
exactement. Statistiquement. Prends juste Facebook. Aligne-le avec LinkedIn. Analyse les éléments que tu mets sur Twitter. Fais un lien avec Instagram et Snapchat. C'est pas compliqué. Au bout d'un moment, tu as un profil de personnalité complet. Et là, je te dis pas de faire que l'analyse va se faire sur 3 mois. Elle peut se faire sur depuis que tu as Facebook, depuis que tu as LinkedIn, depuis que tu as Insta. En d'autres termes, aujourd'hui, l'analyse des métadonnées va permettre de véritablement créer un profil psychologique de la personne et on va pouvoir savoir si elle va fitter avec les profils déjà présents dans l'organisation. ou si elle vient compléter cet aspect-là. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, voilà la place que peuvent améliorer, que peut apporter l'utilisation de la technologie. Le problème, c'est qu'encore une fois, les ressources humaines ou la création d'équipes, c'est une chimie. Et c'est une chimie complexe. Donc, rien ne le garantit. Je ne sais pas si tu connais, tu as une émission qui s'appelle « Marié au premier regard », où ils te prennent des psys, ils analysent des profils. Voilà, vous êtes compatible à 70%, 80%, etc. Mais parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Mais quand on comprend qu'on passe plus de temps au boulot qu'avec sa conjointe, ben, j'ai envie de te dire qu'il faudrait peut-être se poser la question. La plupart des échecs que j'ai vus aux Antilles, lorsque je faisais du redressement d'activité, c'était davantage des problèmes de management ou de gestion de personnel dans les relations humaines que des problèmes techniques en tant que tels.
Ouais, je te remercie de rappeler ça. Effectivement, la dernière fois, on avait apporté le point aussi, vendredi dernier, quand on avait pris le temps d'une pause café, où effectivement, la majorité des personnes sont engagées sur leur profil compétences techniques, les hard skills. Mais dans la majorité des cas, la très grande majorité des cas, je n'ai pas une statistique exacte, mais on peut faire la règle du 80-20 si vous voulez, 80% des licenciements se font sur la base des soft skills, des compétences transversales, des compétences humaines.
Je suis complètement d'accord là-dessus. Et j'en discutais après avec Master qui, à Paris, qui disait que elle, quand elle recrute, essentiellement, c'est des soft skills, des compétences humaines essentiellement, parce qu'elle a besoin que ça puisse fitter dans l'équipe. Une petite équipe qui est tissée serrée, elle a besoin d'avancer. C'est pour ça que les relations au travail, c'est une chimie qui est complexe et difficile. Alors, certains me diront, oui, mais là, ils nous inventent des trucs avec l'analyse des profils, etc., etc. Ça, on n'en est pas encore là. Eh bien, je vous dirais que si, on en est déjà là, parce que j'ai quand même fait un petit peu mes devoirs. Notamment, je vais prendre deux sociétés qui sont présentes au Québec, parce qu'on a peu, finalement, d'organisations de ce niveau-là encore basées en Guadeloupe pour le moment, même si les compétences existent en Guadeloupe pour pouvoir le faire. Je te prends une société qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Pitchoner. Pitchoner, si tu peux partager, ouais. C'est une société qui, pour ceux qui ont vu la série Lie to Me, où, c'est une société qui est capable de vous aider à mieux performer lorsque vous faites des vidéos, lorsque vous êtes en entretien, pour mieux contrôler, je ne vous dirai pas vos émotions, mais pour mieux contrôler votre manière de pouvoir parler, votre éloquence, pour travailler là-dessus. C'est un point très positif en soi. Mais cette société, si tu laisses un petit peu, permet de faire aussi une analyse de tes émotions durant les entretiens. Donc, c'est une émotion faciale.
Alors,
le rythme de ta voix.
Je vais juste mettre ça. Et effectivement, alors on ne va pas écouter, entendre le son de la vidéo, mais c'est juste pour illustrer, effectivement, dans la communication, cette compagnie prend en compte effectivement que…
Tout le non-verbal.
Tout le non-verbal, analyse le ton, le non-verbal, donc l'expression faciale. Je sais pas, je connais pas la technologie qu'il y a derrière, mais je sais que en open source, en fait, tu as des algorithmes de Microsoft, par exemple, qui te permettent d'analyser avec de l'intelligence artificielle les émotions. Donc, en temps réel, sur une vidéo.
Exactement. Alors, regarde bien. Tu te souviens, je ne sais pas, la dernière fois, quand tu m'as parlé un petit peu des Antilles, j'ai eu une grosse vague d'émotions. Si jamais cette séquence-là, tu la prends, tu l'isoles, tu l'enregistres et qu'on la met en lien avec la question, nécessairement, on va voir que tout ce qui est trait aux Antilles, par exemple, va par exemple m'intéresser. On aurait parlé par exemple du village où est né mon père en Corrèze, justement, tu aurais probablement eu le même type d'émotion. Donc dans ces cas-là, c'est certain que dès que ça va toucher ce secteur-là, c'est certain que ça va éveiller un des centres d'intérêt et ça va se voir sur mon visage. Ça, aujourd'hui, ça existe. Donc ça existe, mais ce n'est pas orienté recrutement pur et dur pour le moment. Maintenant, tu as une autre plateforme qui est super intéressante. En passant, Pitchoner a été créé par Mathieu Hall, qui est au Québec, un très grand professionnel que je respecte beaucoup. Le deuxième professionnel qui est très particulier, qui est un extraterrestre du recrutement, qui s'appelle Martin Hood. Martin, c'est un visionnaire. Pour lui, il est agent de personnes, un petit peu comme un agent sportif quelque part. Lui a créé une plateforme dont je vous ai parlé qui s'appelait Jobzilom et un petit logiciel qui permet de s'entraîner à faire des vidéos. qui s'appelle JobZBot.
Okay. Est-ce que tu peux répéter, qui s'appelle comment?
JobZBot.
JobZBot, oui.
Ouais. Bah, écoutez, JobZBot est basé sur la technologie de Pictionary. Donc, partant de ce principe-là, petit à petit, les précurseurs vont intégrer dans les processus de recrutement bah, des analyses d'entretien. Donc, la dernière fois, je ne sais pas si vous venez, mais Myriam de Saint-François nous disait que parfois, il y avait des professionnels qui étaient devenus des professionnels des entrevues et que ce n'était pas évident de pouvoir justement faire un petit peu le tri dans tout ça. Ces logiciels vont venir aider à tout ça. Mais j'ai envie de te dire que l'erreur qui pourrait avoir lieu, c'est de considérer qu'en fait, en analysant que l'extérieur de l'organisation, on trouve des réponses. Il faut aussi analyser l'intérieur de l'organisation. Et c'est là où les consultants ont encore de belles années devant eux, parce que n'importe quelle organisation qui est capable de faire un screen ou de faire un état des lieux, une cartographie de l'organisation, va pouvoir dire, écoutez, il vous faut tel type de profil, mais tel type de profil de personnalité au-delà du type de profil de compétence. Parce que le profil de compétence, moi, je le trouve sur LinkedIn en 30 secondes. Par contre, le profil de personnalité, ça, c'est une autre limonade.
Eh oui. D'ailleurs, ça me rappelle un client avec qui Jean-Jacques French avait travaillé de HumansLink, où c'était effectivement une nouvelle boîte qui allait être montée en Guadeloupe, une start-up, et il recherchait 5 profils particuliers. Il avait identifié déjà toutes les compétences techniques. Donc, il a dit, ces 5 personnes-là, sur papier, de par leurs compétences techniques, leurs diplômes, etc., c'est bon, c'est le fit, c'est les skills, les compétences dont j'ai besoin dans mon entreprise. J'ai déjà parlé avec eux, mais brièvement, ils sont intéressés pour le job. Ça s'est bien passé au téléphone ou en visio. Maintenant, j'ai besoin de savoir, bon, plus concrètement, comment ça va se passer humainement. Quel est le niveau d'intelligence émotionnelle? Comment les gens... Quelle est la capacité? Est-ce qu'il n'y a pas des flags à lever? Est-ce qu'il y a des prédispositions à pouvoir fonctionner en équipe ou non? Et donc, effectivement, nous, on a utilisé la process communication, qui est un modèle qu'on apprécie particulièrement, qui avait à l'époque été développé par la NASA pour constituer des équipes qui partaient dans l'espace, qui depuis largement, grâce à Gérard Collignon, s'est démocratisé très largement et utilisé dans le monde de l'entreprise et qui nous permet justement de faire ça. Donc, ça me fait sourire parce qu'effectivement, l'utilisation des compétences techniques et avec les clés que tu vas nous partager tout à l'heure aussi sur LinkedIn vont nous aider à tous à pouvoir chercher les bonnes compétences, mais aussi à se mettre en avant de la bonne manière. Maintenant, il y a cet élément humain-là qui est important parce que dans la chimie d'une culture d'entreprise, c'est complexe et c'est aussi très fragile. Il suffit qu'un élément, quand je parle d'un élément, c'est une nouvelle personne arrive dans une culture solide, elle peut tout de suite perturber cette chimie qui était bien, quoi.
Pire, être carrément éjecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas recruter un profil à très forte valeur ajoutée. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, la personne va avoir du mal à s'intégrer. Donc, il y a aussi un momentum quand on intègre une personne. C'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment complexe. Je dis toujours qu'il est nécessaire, vraiment, un recrutement, c'est pas anodin. C'est quelque chose qui est fait pour durer. Alors, encore une fois, dans les profils avec lesquels moi je travaille, c'est-à-dire que c'est évident que pour recruter un plombier, essentiellement, on va d'abord aller sur des compétences techniques. Mais au bout d'un moment, si jamais tu la vois sur le terrain, il va peut-être falloir qu'il y ait quelques compétences transversales. Donc, il va falloir travailler un petit peu sur tout ça. Alors, on n'en est pas là-dedans pour le moment, mais j'ai envie de dire qu'on y va de plus en plus. Et au bout d'un moment, c'est certain que la technologie, tout ce qui est au service de cette technologie-là, ben, il y a deux solutions. Il y a ceux qui la contrôleront, mais au-delà de la contrôler, qui sauront s'en servir. Donc, ils vont utiliser la technologie pour influencer les recrutements ou pas. Ça, c'est tout à fait faisable. Et puis, je peux vous montrer en 30 secondes comment on influence un algorithme. Aujourd'hui, c'est très simple. Et puis, il y a de grands spécialistes et bien meilleurs que moi au Québec pour ça. Je citerai... Didier Dubois et Émilie Pelletier qui travaillent très très fort avec LinkedIn, qui sont des stratèges RH, où là on parle de recrutement vraiment à très haut niveau. Moi, je suis dans cette sphère-là, je suis un généraliste dans l'absolu. Et puis ce qui fait ma force, c'est surtout la connaissance et la proximité du terrain en tant que tel. C'est sûr qu'on va vers ça. Puis je vais citer aussi. Une expérience que j'ai vécue avec des techniciens. des gars brillants, deux personnes auxquelles je pense mais régulièrement, avec qui je travaillais lorsque j'étais au pôle d'intelligence. Je ne vais pas les citer pour pas les mettre mal à l'aise, mais il y en avait un qui était un extraterrestre. Il ne savait même pas qu'il y avait des équipes de hockey au Québec. Ce gars-là était brillant, mais très introverti. Un jour, j'ai dit non, il faut l'amener à l'extérieur pour qu'il voit ce qui se passe et comment ça se passe en clientèle. Je l'ai amené dans un rendez-vous client. Mmh. Et ça a été magique. Il a écouté et puis il a fait une réflexion en disant « Ouais, mais il y a ça comme secteur auquel vous ne pensez pas. » Écoute, tu avais tout le board qui nous recevait. Il y a eu un gros silence pendant 30 secondes. Ce gars-là qui avait des lunettes, les cheveux très longs, qui était le geek par excellence, ça, il n'y a rien qui pouvait le prévoir. Mais par contre, j'avais ce feeling qu'il allait pouvoir être d'une valeur ajoutée. Ça a peut-être beaucoup de chance, peut-être, mais…
C'est qui est tout double, ouais. Bon, là, tu as suivi ton intuition, c'est aussi
voilà.
Important.
Mais la technologie nous permettra de réduire ce scope-là. Parce que quelque part, je me dis, mais pour arriver à être comme ça, pour faire ce qu'il fait chez nous, c'est un créatif, le gars. Ce n'est pas juste un informaticien, c'est un super créatif. Ce n'est pas juste un gars qui applique, c'est quelqu'un qui a des idées, qui est capable d'aller plus loin, qui va résoudre des problèmes. C'était à peu près évident pour moi qu'en entrevue, il allait donner quelque chose d'intéressant. Mais je peux t'assurer que certains de mes collègues me disaient, surtout la marque pas là-dedans, c'est un asocial. Mm-hmm. Non. Donc, le côté humain doit toujours être présent. La technologie, ce sont des outils. Avec un marteau, tu construis une maison, mais tu peux aussi la détruire.
Ah, très beau ça. Effectivement, parce qu'en t'écoutant parler, je réalise que aujourd'hui, même quand on utilise peu la technologie et qu'on se fie sur le recrutement avec d'autres outils, on va parfois mettre les gens dans des cases et de dire bon, cette personne-là, elle est compétente sur ça parce que sur son CV, sur son profil, ou elle a été recrutée pour ces compétences-là. Et du coup, on va quelque part l'enfermer. Dans ce domaine de compétences, dans ce domaine d'expertise, et il y aura pas de, ça on va pas la faire intervenir dans des domaines peut-être autres où il y a des moments magiques comme ce que tu viens de décrire. Et je comprends que la technologie permettrait, avec l'utilisation, la large utilisation de toutes les métadonnées qu'on ait, de pouvoir avoir une meilleure compréhension à grande échelle de l'individu dans ses compétences techniques et potentiellement faire la prospective sur ses compétences transversales.
Mmh. Mais je vais même aller plus loin que toi.
Allons-y.
La technologie peut encore même aider encore plus loin parce que là, on fait une photo. Mais en tant que conseiller en développement de carrière, la notion de carrière est quand même une notion de temps. Il est à peu près évident que le Valentin d'il y a 10 ans, le Valentin d'il y a 5 ans et le Valentin de maintenant sont des Valentins qui sont différents, qui ont évolué en fonction.
Bien sûr.
La base reste la même, mais il y a des choses qui ont évolué. Si on prenait tes profils psychologiques, si la photo avait été faite à 10 ans, à 5 ans et à maintenant, on verrait une croissance, on verrait ou une régression, enfin, dans certains champs, d'une augmentation
d'ordre. Oui, les besoins évoluent, les intérêts se déplacent.
Exactement. En d'autres termes, aujourd'hui, en fonction des événements de ta vie, en fonction d'un certain nombre de choses, si on a des informations là-dessus, on peut être mieux à même de mieux comprendre. Donc, baser une analyse sur une seule photo, c'est quelque chose de super dangereux. Il y a trois semaines de ça, j'ai fait un test en ligne. 300 questions, 1h30 pour y répondre.
Wow.
J'ai plié ça en 45 minutes. Parce que j'ai voulu... Non pas parce que je suis bon, c'est pas ça. Mais c'est
t'as tracé, oui.
Ouais, ce que j'ai voulu, c'est y aller vraiment à l'instinct. Parce que ça fait partie de ma personnalité. Donc, je lisais les questions, ok, je répondais ce qui m'apparaissait comme le plus évident. Mm-hmm. 50 minutes à peu près. Mais c'est certain que quelqu'un de plus conservateur va prendre le temps. Mais si le logiciel fait bien ce boulot, il va dire, tiens, ce gars-là a répondu. Ça, il a pris le temps. Il n'a pas pris le temps de trop processer, etc. C'est un instinctif. Voilà comment est-ce qu'il fonctionne et voilà dans quel champ il doit être le plus efficace. Et maintenant, si on refait le même test dans 3 ans, peut-être qu'il y aura quelques variations et on dira, ben, écoute, il a évolué, il a changé. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que les sciences de la donnée et la technologie peut être un apport. Il ne faut pas le voir comme un outil de contrôle. Il faut le voir comme un outil de progression. C'est sûr que moi, ça me fait peur, les résultats que je vais avoir. Là, écoute, il y a mon boss, dans 2 semaines, 3 semaines, il y a quelqu'un qui va me contacter pour discuter avec moi de mes résultats. Je me sens un peu sur le grill.
Et ouais.
Je trouve ça super intéressant parce que je veux dire, ok, c'est puis il va peut-être me poser des questions et je vais pouvoir faire des liens. Et j'avais fait un MBTI, c'est un test encore, il y a 2 ans. Mais à un moment où j'ai, quand je suis arrivé aux 3 ans de ça, au moment où je suis arrivé en crise, au Québec, j'étais quand même un peu en crise lorsque je suis arrivé. J'avais une perte complète de mes repères, plus aucun réseau, mes amis qui n'étaient plus là, ma famille qui était loin, j'étais tout seul. J'ai dû complètement me reconstruire de A jusqu'à Z.
C'est sûr que l'approche que tu as dans le test et comment tu te sens émotionnellement, tes paradigmes, etc., c'est sûr que le résultat aux mêmes questions va changer quelque part.
Et la technologie va m'aider. La technologie va m'aider énormément et va pouvoir justement me permettre de pouvoir, écoute, c'est pas compliqué, progresser parce que je le vois comme ça.
Puis ce que j'entends, c'est aussi, tu l'as mentionné plusieurs fois, et c'est de s'occuper, que les ressources humaines s'occupent aussi de l'intérieur de l'organisation.
Ouais.
Et effectivement, quand on regarde une bonne pratique en management et en leadership aussi, c'est d'avoir une conversation continue avec les membres de l'équipe, aussi pour savoir ça. Parce que si Timmy, qui est rentré il y a 2 ans, mais il était célibataire et qu'il était à fond dans son boulot parce que voilà, il était passionné, mais là il a rencontré quelqu'un et il pense à construire peut-être une famille, donc ses priorités changent, ses besoins changent, donc il a peut-être besoin de plus de flexibilité aujourd'hui, mais en même temps son intérêt a changé, il a découvert l'intelligence artificielle et veut être amené à plus développer cette compétence-là. Mais si la discussion n'est pas faite par le manager, par le leader ou par les départements des ressources humaines, on est aveugle de cette réalité-là quelque part. Et du coup, je trouve qu'il y a une sacrée force à connaître, pas en photographie comme tu disais, mais de manière continue, d'avoir une réalité, une idée en continu du climat dans l'entreprise, mais aussi de la réalité des compétences, des intérêts.
Écoute, tu as complètement raison, quand la notion continue est super importante, notamment en formation. Écoute, il faut être clair là. Si tu me fais une formation en communication, une fois que tu es content, je ne vais pas être bon. Il vaut mieux que tu me fasses des petites capsules de 20 minutes que je vais regarder à chaque semaine, pendant 20 minutes, où tu prévois ça sur mon horaire, et le travailler pendant 1 an ou 2 ans, on dit, avec ma formation, je vais regarder, etc., parce que ça va processer dans ma tête, et que tu me fasses un séminaire après, où là, que je fasse un gros point sur ce que j'ai compris et ce que ça m'a amené, en m'imposant, par exemple, de répondre à des questions. Écoute, c'est un hasard le plus complet. Là, en ce moment, j'ai une formation sur les violences à caractère sexuel à l'université, dans le milieu universitaire. Okay. Écoute, je dois répondre à des questions. Je suis un webinaire qui est super bien fait. Donc, je me sens plus impliqué. Mais ça, je le fais quand? Je le fais quand j'ai 10 minutes, un quart d'heure, je fais un module. Là, j'ai une pause, je vais y retourner à la fin de la semaine. Mais c'est sûr que ça processe davantage que plutôt que tu me mets devant une capsule de 2 heures. Puis là, je ne vais rien comprendre. Puis au bout d'un moment, je vais oublier ça. Donc, la technologie, là aussi, va influencer la formation dans le quotidien.
C'est sûr.
D'accord? Et ça, c'est super important. Ce n'est pas un hasard si quand je parle de mutation, quand je dis qu'aujourd'hui, même les organismes de formation doivent complètement évoluer. Et je vais être clair, je vais me faire taper sur les doigts, mais je suis absolument contre le tout formation à distance. Je pense qu'on est avant tout des êtres en personne. On doit pouvoir se retrouver et échanger. C'est super compliqué de pouvoir le faire lorsque tu es qu'en formation à distance. Mais par contre, c'est certain qu'on peut peut-être repenser un petit peu la manière dont on va fonctionner, en disant, mais regardez ces deux capsules, puis on va s'en parler et faites vos devoirs un petit peu avant d'aller en formation.
Effectivement. Puis, bon, cette période aussi de confinement a poussé aussi à utiliser beaucoup plus les outils technologiques de formation à distance, de visio, etc. Mais l'élément humain reste le même. On a besoin de ce lien, on a besoin d'échanger, de voir aussi, d'être en personne. Et il y a pour les geeks de la formation, il y a ce qu'on appelle le blended learning, qui est l'apprentissage avec différentes approches, en fait, mélangées, tantôt du travail personnel, tantôt des capsules vidéo. Parfois, c'est de la formation vidéo, mais en live ou en présentiel, et d'avoir ce mélange-là. Donc, bon. Le nom n'est pas très important, mais l'idée est là, c'est de comment on peut adapter les pratiques de formation quelque part. D'ailleurs, il y a Grégory sur Facebook qui nous dit ce que j'appelle la communication continue, ne jamais rompre le lien. Et je rajouterais d'ailleurs que c'est important de construire le contexte pour que chacune des parties du coup, ne soient en confiance de pouvoir se rencontrer, de se parler vraiment. Donc,
C'est sûr. Mais aujourd'hui, et encore une fois, c'est du tout, là, on a un échantillon de choses. Le recrutement va être perturbé par la technologie parce que je reviens sur cet élément de recrutement qui est super important. J'ai quelqu'un qui me disait, moi, là, je suis aux ressources humaines. Pour un poste, je reçois 200 CV. Comment veux-tu que la personne arrive à screener 200 CV en une semaine? Un CV, là, quelqu'un le regarde en 30 secondes. Donc, il faut un qui soit super bien construit, puis qui t'attire l'œil et puis enfin, qu'il aille chercher un petit peu quelque chose. Donc, aujourd'hui, avec un recrutement qui aujourd'hui se mondialise de plus en plus, c'est à peu près certain que la technologie va venir au secours des RH là-dessus.
Oui, c'est déjà le cas, même.
Regarde, des nouveaux métiers se sont créés en termes de sécurité.
C'est vrai.
Et c'est sûr que, par exemple, aujourd'hui, la confidentialité des dossiers en ressources humaines va passer par une sécurisation aussi informatique des ressources humaines. Pour ce qui est dans des usines, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus, les employés vont être amenés à suivre des formations grâce à la technologie. Donc, on a des choses très, très très applicatif dans tous les domaines des ressources humaines où la technologie va intervenir petit à petit et se développer. C'est comme une évidence. Bien évidemment, il y a des métiers, bon, un coiffeur, la technologie va peut-être un peu aider au niveau du visage, etc., mais il y a toujours des gestes, il y a toujours des choses qui seront toujours très manuelles, et heureusement d'ailleurs. Mais il n'en reste pas moins que ceux qui te disent qu'aujourd'hui, le recrutement, la formation, ça a changé un petit peu. Mais le recrutement, les relations sociales, tout ça, ne vont pas être perturbés ou à minima évoluer, je pense qu'ils se trompent.
Puis, tu parlais de mutations qui vont être certainement provoquées ou induites par les transformations technologiques. Quelles sont-elles en fait? Il y a plusieurs mutations à venir que tu vois ou que tu penses qu'on a intérêt à anticiper?
Ben, je pense que, bon, déjà, honnêtement, l'utilisation des réseaux sociaux, des profils de réseaux sociaux dans le recrutement, ça c'est majeur, surtout pour les gens qui vont être recrutés.
Et pas, ce que j'entends, ce n'est pas juste les profils de réseaux sociaux professionnels, c'est tous son profil, en fait, tous ces profils.
Écoute, ça m'est arrivé de faire une petite démonstration à mes étudiants. Ils venaient, je leur disais, écoute, ton profil LinkedIn, il est bien, c'est correct. Est-ce que je peux aller voir ton Facebook? Ben là, je disais, ben écoute, oui, ok. Bon, et là, on allait sur photos, et puis il y avait des photos qui n'avaient rien à faire là. Puis là, l'étudiant me disait, mais j'étais persuadé que c'était juste pour ma famille et mes amis. Ben non.
Ouais.
Alors, et puis là, je vais être volontairement provocateur, est-ce que tu as envie de pouvoir être recruté dans une où tu avais fait, par exemple, un blackface il y a 10 ans dans une soirée? Et tu travailles en communication marketing, non, ça va pas aller. On te voit en train d'être fortement alcoolisé pendant un party, pendant un 5 à 7 de ta faculté il y a 5 ans de ça. Comment, si dans une fonction commerciale, comment ça va être interprété? Tu as toute cette prudence-là, sans rentrer à l'excès. Le problème, c'est que si tu n'y es pas, ben, les gens vont se poser des questions. Puis si tu y es, ben, les gens vont regarder. Donc, c'est un catch-22, c'est-à-dire que si jamais que tu le fasses, tu ne le fais pas, ben, tu es dedans, tu le fais, tu es dedans. En d'autres termes, le seul truc que tu peux faire, c'est ben, il faut que tu y sois. Et j'ai un collègue qui s'appelle Pascal Morin, qui est conseiller en communication au service des stages. Ben, si tu tapes son nom, c'est un conseiller en communication. Mais si tu cherches un peu, c'est aussi t'as un Pascal Morin qui a été accusé d'un triple meurtre ou quelque chose comme ça. Écoute,
wow.
C'est le même nom. Alors, c'est sûr que sous nos latitudes, aux Antilles, par exemple, ou en France, on a tellement de diversité de noms, c'est pas un enjeu. Mais au Québec…
Ouais, il y a beaucoup d'homonymes au Québec, oui.
Exactement. En d'autres termes, tu as intérêt à y être, à être présent pour pouvoir justement saturer le réseau d'informations sur toi qui te font remonter en premier parce que tu n'as pas envie que lorsqu'on tape ton nom, ben, ce soit un assassin qui remonte.
Ah ouais, c'est fou ça. Je trouve ça… Donc, en fait, quelque part, c'est tellement ancré dans le fonctionnement de notre société…
Ouais.
Que ne de pas y être va nous marginaliser et donc peut nous desservir. Et donc, c'est d'utiliser l'outil que les réseaux sociaux sont, quelque part. Facebook, même si à la base, ça a été créé pour échanger des photos et des informations entre universitaires, puis après, on partage des photos avec la famille, Aujourd'hui, ce n'est plus ça.
Non.
Et les réseaux sociaux évoluent. Donc, mais de le voir comme des outils et de les utiliser délibérément, en fait, de faire le choix, de dire je vais l'utiliser pour ça et d'être présent et donc de pouvoir contrôler. Aussi, peut-être pour tout le monde sur Facebook, de se dire bah, chaque année, je vais vérifier si ce que j'ai posté en début d'année me correspond toujours avec la personne que je suis aujourd'hui ou que je veux montrer. Et pire, est-ce que quand en 2013 ou en 2007, quand j'ai créé mon profil Facebook, est-ce qu'il y a, j'avais pas mis des trucs
Pardon. T'as des rappels de 6 ans sur Facebook.
Ouais.
Vous aviez publié. Écoute, j'ai deux stratégies. J'ai deux personnes dont je vais te parler rapidement qui ont deux stratégies. Les deux, il y a le premier, à mon avis, a choisi un style que je trouve intéressant. Puis le deuxième, c'est carrément planté lors d'un post. Le premier s'appelle Valentin, comme toi. Il a décidé de réduire considérablement le nombre de personnes qu'il a sur Facebook pour conserver uniquement sa famille proche et partager des photos de ses parents et de sa famille. Mmh. Donc, c'est un outil pour qu'il communique avec ses proches uniquement. Donc, il a fait un gros nettoyage. Écoute, ça, pour moi, c'est quelque chose de rationnel et il sécurise. Et puis, là, on comprend. Il prend pas n'importe qui comme ami. Ça, c'est le premier où je trouve que cette stratégie est très intéressante. Puis, le deuxième qui, à mon avis, qui s'est planté considérablement, ben c'est moi. Ah. Il y a quelques temps de ça, j'ai poussé un coup de gueule sur Facebook en disant « Mais j'en ai assez des gens qui se prétendent médecins, qui ont des avis sur à propos du Covid et qui critiquent en permanence les gens qui sont aux commandes pour essayer de trouver des solutions. » Dans ma tête à moi, ce que je disais, c'était « Écoutez, si vous avez des idées plutôt que de bâcher tout le monde et de faire des posts qui sont absolument innommables, et de véhiculer de la fausse information, un, vérifier les choses avant de pouvoir poster. Puis la deuxième chose que je disais, c'est bah écoutez, si jamais vous voulez, plutôt que d'insulter, de dire qu'on nous ment, on ceci, en mettant en lien avec des complots, etc., etc., bah écoutez, renseignez-vous d'abord avant de poster. Et si jamais vous n'êtes pas content, bah dans ces cas-là, présentez-vous ou au moins allez voter. C'était ça l'essence de mon poste. Une partie de ce
alors, a priori, ça part d'un bon fond. Alors, pourquoi ça a foiré selon toi?
L'argument, ça a été de me dire au bout d'un moment, let's go Sébastien, ce que tu dis, c'est quoi? C'est que tu es contre la liberté d'expression. C'était un raccourci que cette personne a fait, mais dans le contexte, si cette personne, pour elle, les réseaux sociaux, c'est sa seule manière de communiquer, c'est certain que... C'est certain qu'elle s'est sentie agressée. Parce que si elle poste des messages à l'encontre de telle et telle personne parce qu'elle n'est pas satisfaite, lorsque je lui écoute, avant de dire quelque chose, vérifie. Et si tu n'es pas content, va au moins voter. Mm-hmm. C'est certain que pour elle, elle se sent agressée. Donc, c'est pour ça que la maîtrise des réseaux sociaux, donc quelque part de la technologie, dans le cadre des réseaux sociaux, est quelque chose d'important. Puis, influencer un algorithme, c'est très simple. Je peux te montrer en 30 secondes comment on fait ça sur LinkedIn.
Mais justement, je pense que c'est la transition parfaite. On va parler de LinkedIn parce que je crois que 95% des recrutements récents dans les plus grandes entreprises en Amérique du Nord se sont faits à travers LinkedIn.
Ben, écoute, LinkedIn.
Alors, juste avant de te laisser continuer, je veux aviser tous les gens qui nous suivent sur YouTube et Facebook. Si vous voulez que Sébastien analyse votre profil LinkedIn, parce qu'on va parler de LinkedIn pendant les 15 prochaines minutes, dites-nous en commentaire si vous êtes sur LinkedIn et si vous voulez qu'on analyse en live votre profil avec des recommandations de la part de Sébastien.
Entre-temps, je vais te donner deux points. Ça va te faire rire. Admettons que tu cherches du travail. 57% des entreprises sont sur LinkedIn. 57%. Un. Deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais... ton entreprise n'y est pas, ben ça veut dire que ton concurrent y est. Puis si jamais tu recherches une entreprise, il y a de fortes chances que tu la trouves sur LinkedIn. Donc tu vas avoir accès aussi à ses salariés. Premier point. Deuxième point, aujourd'hui, il y a 46 millions d'étudiants qui sont sur LinkedIn et qui sont actifs. Il y a 660 millions de personnes sur LinkedIn, dont 47% sont actifs au quotidien. C'est pas rien.
C'est une plateforme où les gens l'ouvrent tous les jours.
Ben, c'est la 19e au monde. C'est pas anodin. C'est un réseau professionnel.
Donc, je trouve, Sébastien, que j'ai observé sur la dernière année,
oui.
je trouve qu'aujourd'hui Facebook a cet effet, pardon, LinkedIn a cette effervescence que Facebook avait dans ses débuts, où aujourd'hui, quand on a une capacité de reach, de rejoindre les gens de manière organique, aujourd'hui Facebook, si vous voulez, quand on poste, on fait une publication, il y a uniquement une portion des gens qui vous suivent qui vont la voir. La plateforme est tellement saturée, il y a tellement de monde, il y a aussi tous les posts sponsorisés, les publicités, etc. LinkedIn n'est pas encore là. Et je trouve que du coup, une entreprise ou un talent qui veut se faire se mettre en avant peut exprimer ses idées et rejoindre organiquement dans la plateforme des gens qui ne sont pas encore dans ce réseau, mais qui vont pouvoir voir ses publications. Et il y a un fort intérêt à ce niveau-là, je trouve, d'un côté marketing pour la marque professionnelle, la marque employeur, je cherchais le mot, mais aussi pour quelqu'un qui veut se démarquer de par ses expertises, ses compétences, etc.
Mais au-delà de ça, moi, je me souviens, la première chose que m'a dit ma conjointe, qui est une experte en communication, elle m'a dit, dès qu'elle a vu mon profil LinkedIn, elle m'a dit, Sébastien, enlève tes posts. Parce que c'est vrai que, bon, je défendais certaines positions. Maintenant, je me suis un peu nuancé. Mais si tu veux voir en quelques secondes comment… Enfin, il y a des stratégies très simples pour être recruté, en fait, pour gagner en visibilité stratégiquement.
Bien sûr, bien sûr. Alors, ce que je propose, c'est que on commence, si tu veux, avec. Est-ce qu'on fait mon profil?
Ben écoute,
Tu me mets sur le grill et.
ça me fait plaisir.
Ok. Donc, on va faire ça. On va partager l'écran de Sébastien. Donc là, on est même sur. Ok. Donc là, on est sur le LinkedIn de Sébastien. Sébastien, si tu veux, ok, pour zoomer un tout petit peu,
Bien sûr.
ça va être super. Ça va nous aider à mieux voir. Et vous, en commentaire, vous pouvez,
Alors,
si vous
je
avez une
vais partir d'un
entreprise, vous pouvez nous donner la page de votre entreprise et on pourrait la regarder rapidement avec Sébastien ou votre profil personnel. On n'a pas le temps pour faire beaucoup d'entreprises et beaucoup de noms. Donc, le premier sera servi. Dites-nous en commentaire si vous êtes volontaire. Let's go,
Alors, est-ce que
Sébastien.
tu veux qu'on commence par une analyse rapide? Est-ce que tu veux qu'on commence par une analyse rapide de ton profil ou alors qu'on montre comment influencer un poste?
Commençons par
Comment
comment.
influencer, pardon, comment ton profil, tu peux le faire en sorte qu'il influence et qu'il fitte beaucoup mieux avec un poste. C'est
Alors,
toi qui choisis.
est-ce qu'on peut faire les deux?
Ah ben écoute, on va essayer. C'est parti, déjà sur Valentin French.
Okay, moi, je suis en stress, là, on verra.
Alors, c'est parti. Bon, écoute, il n'y a pas de souci. Il y a déjà de positif, c'est qu'apparemment, c'est un profil qui a de l'anglais. On a les informations sont
Ah mince, on...
très importantes sur un profil LinkedIn d'être cohérent parce que les premières secondes, ouais. Les premières secondes que l'on voit, je ne sais pas si ça se voit bien comme ça, voilà. Ce qu'on peut voir rapidement, c'est quoi? Cette photographie, on te reconnaît, on t'est identifié, il y a un blanc, c'est très corporate. Et l'arrière, un petit peu. On voit que tu es également joignable, donc par tous les systèmes de médias. On a même ton numéro de téléphone, ça c'est plutôt intéressant. Et le site. Et même le
Et le site
site de
internet.
l'entreprise pour que tu as fondé, donc ça c'est parfait. Il y a beaucoup d'activités. Ouais, il y a beaucoup d'activités. Le champ expérience est rempli avec de la description. Mais là, on remarque que c'est en français. Donc le premier réflexe que j'aurais envie de te dire, si tu fais un profil en LinkedIn en anglais, fais-le en anglais. Si tu le fais en français, fais-le en français. Fais pas les deux. Il y a la fonction double en fait, hein, sur LinkedIn. Tu peux avoir et ton profil anglais et ton profil français.
Donc, j'ai pas besoin de recréer un autre profil. C'est dans le même
Ah,
profil, Valentin French. Je peux traduire mon
non, tu vas
profil,
le...
en fait.
En fait, tu vas le recréer dans sa structure. Ce que tu vas devoir, c'est traduire à l'intérieur. Mais le gros
D'accord.
avantage, c'est qu'un profil anglophone va directement tomber sur ton LinkedIn anglophone. Un profil francophone va tomber directement sur ton profil francophone. Pour nos amis des Antilles, c'est un peu moins intéressant, sauf s'ils veulent à l'extérieur, c'est sûr. Et là, on retombe sur de l'anglais. Il y a un nettoyage là à faire. On voit.
Alors,
Téléphonification, ça c'est important parce que là, on va passer dessus.
Sébastien, excuse-moi, ça coupe un tout petit peu. Est-ce que tu es OK
Et
de
on
juste
voit quelques
couper?
compléments.
couper ta caméra, juste le temps qu'on partage ton écran, s'il te plaît. Comme ça, ça va utiliser moins de bande
Bien
passante.
sûr, avec grand plaisir.
Voilà, super. Je pense que ça
Est-ce que
va
c'est
aider.
correct?
Ouais, c'est mieux, on t'entend mieux.
Super. On peut voir aussi tes compétences et recommandations. Donc ça, c'est pas mal intéressant tel que c'est fait. On voit que tu as des compétences et on voit que tu as des recommandations. Ça, c'est très positif. Donc, et ce qu'on peut dire, c'est qu'également, ce sont des personnes dont tu étais sous la responsabilité, donc ça donne de la crédibilité dans les deux
D'accord.
cas. Et tes réalisations. Donc, tu as un profil complet. Maintenant, les axes de progrès. Sur quoi tu devrais travailler? Et dans un premier temps, séparer le français de l'anglais, ça c'est clair.
Ok, super.
Dans
Donc,
un
de
deuxième temps, ce
préparer
que j'ai
son
envie de te dire,
profil
c'est que
bilingue.
là. Ouais. Dans un deuxième temps, ce que j'aurais envie de te dire, c'est que ça serait vital, à mon sens, ben, que tu détailles un petit peu. Alors, c'est super les photos, mais moi, j'aimerais savoir c'était quoi les tâches que tu avais. C'est quoi, qu'est-ce que tu as fait à Human Link, sur quoi je peux te solliciter? Est-ce que tu sais gérer des budgets? Est-ce que tu sais diriger une campagne de communication? C'est donc mettre des tâches avec des verbes d'action. Pourquoi? Parce que l'algorithme va le reconnaître.
Ok, super.
Et on va le voir tout à l'heure par rapport à une offre. Donc, de détailler un petit peu plus tes profils. Autant sur un CV, tu es limité à une page, recto verso. Mais sur un profil LinkedIn, tu peux y aller là. Tu peux en mettre. Donc, à mon sens, ça peut devenir intéressant.
Et puis, je crois aussi tu vas nous montrer que c'est pertinent aussi dans la
Donc,
recherche
dans ton
d'emploi ou
profil complet.
pour être trouvé aussi.
Ah ben, écoute, c'est pas compliqué. Les professionnels, bon, ça, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est un logiciel un petit peu à part et puis c'est aussi privé là. Un professionnel aujourd'hui peut. Regarde comment est structurée une offre d'emploi sur LinkedIn. Tu vas voir, c'est très simple. Admettons que j'aille sur le conseiller spécialisé en initiative stratégique. Quelque chose qui pourrait te plaire, par exemple.
Allons-y.
L'algorithme est passé dessus. Donc, ils analysent mon profil. Ce qu'ils me disent, c'est quoi? C'est que je suis dans les 25% des meilleurs candidats. Et ils me disent que mes compétences qui sont recherchées, donc je correspond vraiment bien. Par contre, ce qu'ils regardent, c'est quoi? Ils disent qu'il y a certaines compétences qui sont absentes. Tu les vois, elles sont là. OK?
OK.
Alors, la question, j'ai envie de te dire, mais c'est quoi ces compétences? Eh bien, je peux avoir le détail ici. Planification, analyse des risques et événements. Si je rajoute ces compétences dans mon profil LinkedIn, je vais fitter à 100%.
Ah ouais,
Donc
donc en fait,
l'algorithme va voir une plus grande capacité.
donc à la fois je trouve ça très pertinent et pour l'employeur et pour l'employé potentiel, c'est-à-dire qu'un employeur a tout intérêt de spécifier ses offres d'emploi en étant le plus précis possible sur LinkedIn parce que ça va nourrir l'algorithme qui va vous faire des recommandations et qui va pouvoir vous permettre d'évaluer la qualité des candidats. Et d'un autre côté, de prendre conscience que peut-être par exemple, je pense en Guadeloupe, où tous les profils LinkedIn ne sont pas complets. Et donc d'aller peut-être de manière plus granulaire, quoi, plus spécifique, de rentrer dans les profils et de prendre en compte ça. Et pour les chercheurs d'emploi, c'est de vraiment utiliser les offres d'emploi que vous voulez, donc toutes les entreprises et tout le type d'offres d'emploi auxquelles vous souhaitez postuler, de les utiliser, de regarder comment elles sont écrites, quelles sont les compétences qui y sont mentionnées pour nourrir votre profil. De manière à ce que les employeurs puissent vous trouver beaucoup plus facilement, parce qu'on l'a vu, la technologie comme celle qui est présentée là est très largement utilisée. Je rappelle 95% des derniers recrutements en Amérique du Nord sur les plus grandes entreprises ont été faits via LinkedIn.
Mais je vais
Donc c'est une réalité.
regarde un peu, on a le gars qui a passé l'offre, qui s'appelle Mathieu Constantino. Bon, regarde bien. Là, on voit que la société, c'est Investissement Québec. Moi, mon réflexe, ça serait de faire quoi? Je vais sur le site d'Investissement Québec, je regarde les employés, et en fonction de ce qu'il y avait le mot stratégie, je crois, dedans, je vais essayer de me connecter avec Nicolas Fresne. Je vais me connecter avec Benoît Leroux en envoyant un petit message sympathique, etc., etc. C'est à peu près certain qu'une fois que je serai connecté avec ces personnes-là, un jour ou 2 jours plus tard, je reviens sur le profil, sur l'annonce de la personne. Et là, j'ai ajusté mon profil LinkedIn, j'ai ajusté mes compétences, j'ai pris des personnes dans l'entreprise, dans mon réseau, et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simplement, excuse-moi, je suis désolé, je scrolle un petit peu. Je vais simplement contacter la personne qui est Mathieu Constantino.
Bien sûr.
Donc, je vais t'appeler Mathieu Constantino.
Juste pour expliquer, tout à l'heure, voilà, tu as mentionné le mot stratégie. En fait, tu vas chercher du coup dans les employés de l'entreprise que tu veux, la personne qui est responsable de l'offre et du recrutement, mais aussi les personnes qui sont potentiellement des partenaires clés, enfin des éléments clés dans l'organisation. Donc, on a vu l'offre d'emploi qu'on regarde aujourd'hui, il y avait une notion de stratégie. Donc, tu vas aller voir les directeurs en stratégie et tu vas essayer de connecter avec eux également. Pas juste le conseiller en acquisition de talent.
Parce que lorsque... Eh non, parce que si quand Mathieu va venir, qu'est-ce qu'il va regarder sur mon profil LinkedIn? Parce qu'il va le voir, parce que je vais le contacter. Ben, il va voir que je connais déjà deux personnes dans l'institution. Donc, ça va donner, je te dirais, un préjugé favorable. Même ouais, il y aura... si, dans l'absolu, il peut les contacter, il ne peut pas leur contacter, mais je rajoute, en fait, si tu préfères, il faut y aller par couche. Je rajoute une petite couche. Et puis, c'est toujours intéressant parce que éventuellement je peux discuter avec la personne de l'offre qui a été passée. Je dis, ben voilà, je suis intéressé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Donc, en d'autres termes, l'idée, c'est de rentrer, c'est de développer son réseau. Je te l'ai dit, je crois que c'était la semaine dernière. Pour moi, le développement de carrière, ça s'assoit sur trois piliers. Les compétences techniques, les compétences transversales et le réseau.
Oui, tu nous l'as dit.
Donc, partant de ce principe-là, pour
Oui, ça y est.
Hop là, Valentin.
Tu es de retour, Sébastien. Oui, ouais, je suis là. Yeah, on a
le petit, réseau.
Est-ce que tu m'entends, Sébastien? J'ai l'impression qu'il y a un petit lag sur le. Ok, ouais, il y a un petit décalage, un léger décalage. Donc, effectivement, tu nous disais l'importance de développer le réseau. Je rappelle, la semaine dernière, vendredi, sur la pause café avec Sébastien, tu nous expliquais, il y a trois piliers, développement de compétences, donc les hard skills, développement des compétences transversales, les soft skills, et développement du réseau. Et le développement du réseau nous aidait aussi à développer nos soft skills. Donc, c'était d'une pierre deux coups, on aime ça, c'est efficace. Et quelque part, il y a un élément dont tu parles, la stratégie est d'autant plus pertinente dans ce sens, c'est que c'est un réseau social, et donc là, il y a le côté social, il y a le côté humain. Qu'il ne faut pas oublier, ça reste un outil. Et quelque part, quand Sébastien nous dit d'aller chercher, de se connecter à plusieurs personnes dans l'organisation, pourquoi? C'est parce que quand le recruteur va regarder notre profil, si on a fait ça, eh ben, il va avoir une perception, une confiance perçue qui aura augmenté. Donc, ce que Sébastien nous a dit, c'est un préjugé favorable à nous recruter. Et donc, quand on reçoit 200 applications, 200 candidatures, ou 2000, eh bien, ça nous permet de sortir du lot. Donc, c'est une très, très grosse clé. Sébastien, est-ce que du côté de l'employeur, il y a des clés également?
Ben, complètement. Et les clés, c'est quoi? Ben, c'est de regarder le LinkedIn, de regarder aussi le réseau qu'il y a autour. Lorsque l'on fait une offre, ben, de mettre en avant, justement, dans ces compétences-là, les soft skills. Pourquoi? Parce que lorsque l'algorithme va tourner, en fait, pour faire très clair, tu rentres un poste et tu rentres toutes les compétences dont tu as besoin. Et LinkedIn va te sortir automatiquement les diplômes qui conviennent bien, les personnes qui ont mis en avant les compétences dont tu avais besoin. Donc, plus tu rentres dans le détail, mieux c'est.
Ok, super.
Donc, il faut qu'il y ait une réflexion. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus chercher une patte. J'ai envie de te dire que si tu recherches la personne, si tu vas trop dans le détail, ben, écoute, vas-y doucement.
Tu te prives aussi de.
Donc, ouais. Exactement. Donc, c'est un équilibre intéressant. C'est pour ça que, comme je te disais aujourd'hui, à mon avis, le futur directeur des ressources humaines est quelqu'un qui est résolument tourné vers l'intérieur, qui connaît les gens de l'organisation, qui connaît leur fonctionnement, qui savent ceux qui ont les points de résistance de certains, les axes de progrès d'autres, les qualités de tout un chacun. Et c'est une sorte d'alchimiste pour moi, le futur directeur des ressources humaines. C'est un alchimiste qui va permettre à la personne qui va gérer l'organisation d'avoir un regard plus pertinent, d'être un meilleur chef d'orchestre, en fait.
J'adore cette métaphore de l'alchimiste, transformer le plomb en or. Et ça fait penser aussi au développement du potentiel, au développement des talents. C'est quelque part, c'est la partie stratégique de la gestion des ressources humaines. C'est de remettre aussi l'humain au cœur des préoccupations, parce qu'on crée des entreprises, les entreprises sont créées par l'homme, mais il faudrait qu'elles le soient aussi pour l'homme en prenant compte de ça. Donc, je trouve que c'est super. L'heure est passée encore une fois hyper vite. Tu nous as partagé énormément de clés et j'ai apprécié l'étude de cas quelque part sur le profil. Donc, j'ai vu que moi qui passe pas mal de temps sur LinkedIn, il y a plusieurs axes d'amélioration. Donc, ce que je propose, c'est d'utiliser tes conseils pour réviser mon profil LinkedIn. Et puis, à la limite, je ferai une vidéo pour partager le résultat. Et si. Est-ce que tu es OK si je fais ça? On se refait une vidéo, pas nécessairement en live, mais en. Toi et moi, où tu analyses, tu fais une deuxième passe en fait sur mon profil et on regarde.
Écoute, ça me ferait vraiment plaisir. Encore une fois, notre objectif, il ne faut pas oublier que je travaille pour une université qui est très proche du terrain. Et notre objectif, c'est le développement de carrière. Puis je crois savoir que tu es un de nos anciens étudiants, donc ça va me faire plaisir de t'accompagner.
Ah, c'est génial. Je te remercie beaucoup, Sébastien. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui sur cette pause café. Si vous étiez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Puis cliquez la petite clochette pour recevoir les notifications. On revient régulièrement avec Human Link en cette période de transition. On poste du contenu très, très, très souvent. L'émission d'aujourd'hui, cette pause café, et puis toutes les autres, vous pouvez aussi la retrouver en audio si jamais vous voulez écouter dans les transports en commun ou en voiture ou simplement avoir les mains libres et pas être assis devant votre ordinateur. C'est Humans Link Audio Experience et vous pouvez le trouver sur toutes les plus grandes plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. Vous pouvez chercher Humans Link Audio Experience et retrouver Sébastien et nos autres intervenants lors des pauses café en audio. Et ça nous fera plaisir de pouvoir partager le contenu sur ce format-là également. Soit sur Facebook, mais n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à partager la publication avec votre réseau. Et je rappelle, l'objectif de ce live, mais aussi de Humans Link, c'est de créer les organisations dont l'humanité a besoin. Aujourd'hui, on a beaucoup appris. Merci Sébastien. Merci à vous tous. Soyez humains, soyez extraordinaires. À bientôt.